Ariane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Le Quart d'heure de santé, produite par le docteur Guillaume.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, docteur, nous allons aborder un sujet qui fait bien des ravages.
Hélas, c'est l'alcool. La maladie alcoolique est une maladie médico-psychosociale. C'est-à-dire que elle est médicale parce qu'elle frappe le corps, elle est psychique parce qu'elle frappe l'esprit, et elle est sociale parce que les dommages s'étendent bien au-delà du malade. C'est donc une préoccupation de santé personnelle, de santé publique et d'ordre public. La connaissance du produit s'impose donc avant d'en connaître les effets.
Donc qu'est-ce que l'alcool alors ?
Eh bien l'alcool éthylique, l'éthanol, c'est une molécule obtenue par la fermentation de fruits, de raisins, de grains, et aussi par distillation des jus fermentés. Mais c'est un produit toxique qui agit sur tous les organes, notamment le foie et le cerveau.
Alors dans quelle proportion est-ce qu'on trouve de l'alcool dans les boissons ?
Eh bien l'alcool n'est pas un aliment et il n'est pas indispensable. Mais l'apport d'alcool dans une boisson s'étend de 3% à 50%. Quand on va de la bière aux alcools forts, on va de 3 à 50%. La quantité d'alcool ingéré est toujours de 10 grammes pour un verre. Une bolée de cidre, c'est 4 à 4 degrés. Un verre de bière à 6 degrés, c'est 10 grammes d'alcool. Un verre de vin à 12 degrés, un verre d'apéritif à 18 degrés, un petit verre d'alcool à 45 degrés, c'est 10 grammes d'alcool. Et je parle bien sûr du verre de débit de boisson et non pas du volume que vous offrez à domicile à vos invités. Et en plus de ça, la deuxième tournée double la dose ingérée. Ce qui fait que nous sommes loin de la norme de consommation admise, qui est zéro. La tolérance quotidienne admise est de 2 verres pour une femme, 3 verres pour un homme. Zéro pour les enfants et les femmes enceintes. Alors qu'antérieurement, il y a une cinquantaine d'années, on admettait qu'il ne fallait pas dépasser, pour un homme, 7 verres par jour.
Ainsi, aïe, aïe, aïe.
Nous avons bien réduit nos tolérances.
Alors, tout le monde n'a pas la même attitude face à l'alcool.
Eh bien, alors, les modes d'ingestion sont les abstinents. Ils l'ont toujours été ou alors ils le sont devenus. D'autres sont des buveurs occasionnels et c'est une grande quantité de gens. Quant à la tolérance, elle est caractérisée par une consommation non nulle. Elle est inférieure à la capacité physiologique de détoxication, c'est-à-dire qu'elle n'apporte pas de fatigue, que cette consommation n'apporte pas de dommages détectables, ni immédiats, ni à long terme. L'ingestion quotidienne est liée à l'alimentation ou un comportement de convivialité et de fête, mais l'alcoolémie dans l'année reste basse, intermittente. Quant à l'habitude quotidienne, pluricotidienne, répétée dans la semaine, dans les mois, dans les années, elle peut rester stable et n'a pas d'inconvénient majeur dans la vie. Quant aux buveurs excessifs, ils ne présentent aucun symptôme organique ni psychique durant les premières années, même si parfois surviennent des ivresses répétées. Ensuite s'installe un alcoolisme dépassant sa capacité de détoxication, ce qui a induit des malades. Quant à l'alcoolisation solitaire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, c'est un comportement particulièrement grave dans ses conséquences.
Alors comment est-ce que l'alcool se diffuse ?
La diffusion dans tous les organes, après une prise unique, est réalisée en une demi-heure environ. Le taux d'alcoolémie, la concentration d'alcool dans le sang, atteint un pic d'autant plus élevé que la quantité bue est grande et que le degré alcoolique de la boisson est élevé. Le pic est atteint en à peu près 30 minutes. L'ingestion alimentaire réduit un petit peu l'élévation maximale du pic et en retarde l'heure. Mais l'ingestion concomitante de boissons pétillantes favorise nettement l'absorption intestinale et accroît la hauteur du pic du taux d'alcoolémie, et qui est d'autant plus élevé et plus précoce qu'il y a une absorption avec des boissons pétillantes.
Ah bon, c'est pire ?
Absolument. Pic est plus haut et le temps d'apparition est plus court. Un whisky Perrier est plus toxique qu'un gros whisky tout seul. Une autre ingestion rapprochée provoque un deuxième pic dépassant le premier, et ainsi de suite pour les ingestions suivantes. La diffusion de cette petite molécule, l'éthanol, est sans restriction et tous les organes sont imprégnés.
Alors comment mesure-t-on l'alcoolisation ?
La mesure de l'alcoolisation retient deux méthodes, dans l'air expiré en dépistage et dans le sang pour la mesure. L'éthylotest, c'est le ballon dans lequel vous soufflez. Vous le connaissez bien. On ne mesure pas. On met simplement en évidence l'absence ou la présence d'alcool dans l'air expiré. Quant au virage de la zone jaune du témoin, si elle vire au vert, elle traduit la positivité du test. L'éthylomètre, lui, mesure et affiche le taux d'alcool dans l'air expiré en soufflant durant quelques secondes dans l'embout à usage unique de l'appareil. Le résultat est exprimé en milligrammes par litre d'air expiré et il est normalement nul. Et un taux de 0,25 mg par litre d'air correspond à une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang. Et la mesure doit être confirmée par une prise de sang pour avoir une valeur probante dans le cas où ce résultat aurait une valeur juridique. L'alcoolémie, c'est donc la mesure du taux dans le sang. Il doit être réalisé pour avoir une valeur juridique par un biologique de manière à avoir une valeur probante. Le taux de 0,50 g par litre et plus est celui de la contravention et le taux de 0,80 g par litre d'alcoolémie est celui du délit.
Nous allons faire une pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel pour l'émission Le quart d'heure de santé et le docteur Guillaume nous parle de l'alcool. Alors, l'alcool, comment l'élimine-t-on ?
Eh bien, l'élimination de l'alcool sans modification est notamment urinaire et aussi par l'air expiré. Mais elle est majoritairement hépatique. On dit qu'elle est métabolisée par le foie. La décroissance du taux d'alcoolémie est limitée au taux de 0,10 à peut-être parfois 0,15 g par litre de sang et par heure. On peut retenir 0,10. Cela veut dire qu'il faut 10 heures pour passer d'une alcoolémie de 1 g à 0. C'est relativement considérable. La décroissance de l'alcoolémie ne peut pas être accélérée. C'est le rythme de travail du foie, c'est sa capacité de détoxication, c'est sa limite. Quant aux idées fausses concernant les méthodes d'accélération de la décroissance de l'alcoolémie, elles sont nombreuses. Manger, boire de l'eau, courir, prendre une douche, le café fort, le thé sucré, consommer de la taurine, prendre du fructose, fumer un joint. Tout cela, ce sont des balivernes.
Alors, oui, quels sont les effets pathologiques alors de l'alcoolisme ?
Alors, les effets pathologiques concernent tous les organes, l'œsophage, l'estomac, le foie, le pancréas, mais aussi le cerveau, le cervelet, les nerfs sensitifs et moteurs. J'ajoute un petit paragraphe sur les effets de l'alcoolisation de la femme enceinte. Ils sont doubles. La femme s'alcoolise et se provoque à elle-même des effets dommageables. Et elle alcoolise l'enfant à naître. D'ailleurs, le livre des Juges, chapitre 13, verset 4, disait déjà « Tu enfanteras un fils, désormais prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur fermentée. » Diverses malformations, notamment cardiaques et encéphaliques, sont d'ailleurs à redouter et sont même parfois observées dans des familles. Les psychoactifs, les effets psychoactifs dans l'ivresse et l'alcoolisme chronique sont d'expressions différentes. L'ivresse perturbe le comportement de manière réversible, ce qui ne retire rien à la dangerosité de l'individu. L'alcoolisme chronique a des conséquences observables d'apparition plus tardive. Les maladies organiques se révèlent souvent après plusieurs années, mais les déficits intellectuels et comportementaux sont d'apparition progressivement croissante. La dégradation et du corps et de l'esprit s'accroît à mesure que l'intoxication se poursuit. Et pour les alcooliques chroniques, la dépendance, on dit aussi l'assuétude et l'addiction, apparaît sans qu'elle soit reconnue. C'est la perte de liberté de s'arrêter de boire. L'alcool est devenu une drogue indispensable, non pas pour le plaisir, mais pour éviter le mal-être de sa privation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. Ce sont ces aspects médicaux et comportementaux qui font la gravité des alcoolismes aigus et chroniques.
Alors il y a quand même quelquefois des conséquences juridiques, hein ?
Absolument. Nous allons en parler tout de suite. Les conséquences juridiques pour le responsable de dommages causés par son sous influence alcoolique sont lourdes. Le législateur tolère une alcoolémie de 0,49 g par litre de sang. Mais dès 0,50 g, c'est une contravention. Dès 0,80 g, c'est un délit. Ainsi donc, l'alcoolisation n'est pas une circonstance atténuante, loin de là. J'ajoute que l'assureur suspend le contrat d'assurance automobile, il n'est plus tenu d'être le tiers payeur des dommages causés par le responsable dont l'état comportemental a été volontairement acquis, ce qui est une faute inexcusable.
Alors en conclusion, docteur ?
Eh bien, les deux aspects médicaux et comportementaux feront l'objet de nos prochains rendez-vous. L'émission « Le quart d'heure de santé » est diffusé le jeudi à 11h15 et le dimanche à 16h sur Radio Grand Ciel, bien sûr.
À Chartres.
106.8 à Chartres.
Voilà.
Vous pouvez l'écouter aussi à tout moment sur le site www.radiograndciel.fr. Amis fidèles, à bientôt.
Voilà.
C'est bon. Thank you.